Assurez-vous de ne jamais manquer un épisode en vous abonnant sur iTunes ou Google Play. Troisième épisode de JVDX Micro, le podcast éclair de jeux vidéo de luxe, une émission à deux joueurs où les participants discutent gaming, les points positifs et les points négatifs, un pouce à la fois. Mon nom est Davoid, et dans le siège du Player 2, j'ai le très grand plaisir d'avoir mon toujours très estimé collègue Adam de jeux vidéo de luxe.
Ouh, allô David!
Comme JVDX Micro se veut un podcast rapide, Adam, est-ce que tu peux nous faire les honneurs d'inaugurer celui-ci avec ton pouce vers le bas, s'il te plaît?
Yes, on commence avec du négatif, j'aime ça. mon point négatif, je ratisse large là, parce que je vais pas comme juste à un événement, c'est l'élitisme puis l'obscurantisme. J'essaie de trouver des super beaux mots là. Mais juste le blocage du monde à l'arrivée des jeux vidéo dans une espèce de culture populaire ou l'arrivée en force des jeux vidéo dans le monde du sport, dans le monde en général, dans les médias. En plus, on commence à en entendre parler plus souvent là aux nouvelles, puis quand il y a des gros événements de jeux vidéo, on en parle, que ce soit sport électronique ou Twitch, YouTube, parce que ça finit toujours par faire parler parce que c'est du monde qui gagne plein d'argent. Mais il y a toujours des monsieur, madame qui s'insurgent devant ça.
Du monde boqué, essentiellement.
C'est ça. Que voyons donc, ça n'a pas d'allure que les jeux vidéo soient populaires à ce point-là. Ou ça n'a pas d'allure qu'on en parle aux nouvelles ou qu'on en parle au réseau des sports ou peu importe. Ils aiment pas ça. Ça leur fait une petite peur, puis je sais pas trop, là, ils ont peur que ça leur enlève quelque chose à leur loisir à eux autres.
Je suis curieux parce que moi, je suis pas vraiment exposé aux médias de masse. Il y a beaucoup de monde qui qualifie Facebook de echo chamber, là, dans le sens que ça va aller dans le même sens de ce que tu m'émères. Si t'es pro telle affaire, Facebook va surtout t'inonder de posts dans le même sens de ce que tu penses. Donc, puis j'écoute pas la télévision, ni la radio, ni tout ça, donc j'ai pas d'exposition au phénomène dont tu parles. Je connais ça parce que, je veux dire, j'ai déjà été exposé aux mass médias, etc. Des reportages de « Oh mon Dieu, la violence dans les jeux vidéo » ou « Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que les jeux vidéo, c'est réellement un marché qui rapporte plus d'argent annuellement que le cinéma. » Mais de quelle manière est-ce que toi, t'es exposé à ce genre de choses-là? Est-ce qu'il y a du monde dans ton entourage ou c'est quoi
pour,
exactement?
Pour s'exposer à ça, il faut faire Faut s'auto-infliger la torture d'aller lire les commentaires dans des articles du Journal de Montréal ou de TVA, par exemple.
Je te dirais que t'as couru après, là.
Oui, je cours après, mais tu sais, c'est pour aller tenter le pouls. Mais aussitôt qu'il y a un article, souvent quand il y a des articles du genre, ils vont parler d'un streamer qui fait plein d'argent, vont parler d'une compétition d'e-sport ou des Jeux olympiques qui pourraient envisager d'avoir des jeux vidéo, c'est là que tu te dis, je vais aller juste mettre un petit orteil dans l'eau, là, puis je vais aller voir les commentaires, puis c'est intense.
Ouais.
Pathétique. Puis c'est là que le monde, il se laisse aller, parce que de toute façon, tu sais, c'est facile d'aller mettre plein de commentaires sur Facebook. C'est dans les commentaires Facebook, dans les commentaires différents journaux des différents médias, c'est là qu'on trouve les belles petites perles. Puis même dans des... j'ai eu plusieurs discussions un peu presque enflammées dans des... Juste des groupes de jeux vidéo, que ce soit, je sais pas si c'est arrivé dans le CCJVQ ou Nintendo Fan Québec ou peu importe, c'est déjà arrivé sur une page un peu plus habitienne de jeux vidéo, mais qu'on partage un lien pour dire, mettons, c'est cool, le jeu vidéo va sortir, grosse compétition de e-sport, sinon aussi, c'est quoi les sports-études, il y a aussi il y a certaines universités ou certains collèges, peu importe, qui amènent du sport-études avec du jeu vidéo. Puis même si c'est des gamers, puis du monde qui ont gamé depuis longtemps, bon, il y en a certains qui sont quand même boqués puis qui peuvent pas s'imaginer pouvoir classifier ça comme sport. Personnellement, je défends quand même férocement qu'on peut en faire une compétition sportive. C'est juste l'espèce de définition pure à l'ancienne du mot sport que le monde ne veut pas changer ou qui...
C'est de l'activité physique, mais c'est tout le temps plus un état supérieur, là. Je veux dire, concentration supérieure, précision. C'est pas nécessairement de l'effort physique, là.
Ouais, c'est...
T'sais, ça inclut l'esprit, dans le fond, là, ça, là.
Ouais, absolument. C'est une bonne façon de voir ça. Puis, dans le sport, il y a tout un aspect de divertissement puis de compétition devant des spectateurs aussi.
C'est un show, là.
Ouais, c'est ça. C'est un show, faut pas oublier ça. Il y a une différence entre une compétition sportive au sens pur du terme et aller jouer au hockey bottine dans une ruelle. T'sais, là, tu joues au hockey, c'est plus une activité, tu sais.
Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, juste par opposition, là, les jeux vidéo versus les sports, je pense que plus jeune, on t'avais comme deux types de kids, plus ou
Ouais.
moins, là, ou deux types d'activités étant kids, là, ceux des jeux vidéo puis ceux du sport, puis aussi dans le domaine des jeux vidéo, puis les collectionneurs de jeux vidéo, les jeux qui valent les moins chers, les moins intéressants, c'est les jeux de sport, tu sais. Fait
Ouais,
que je vois une
absolument.
espèce de parallèle de genre, on dirait qu'on les boude, parce qu'il y a des très bons jeux de sport pour de vrai, là. Mais ouais, je vois cette espèce d'opposition-là. Puis j'ai pas osé aller mettre le nez dans les sections commentaires,
Ouais.
sérieusement, parce que par le passé, j'étais quelqu'un qui défendait mon opinion.
Ouais, c'est dangereux ça. Quand tu défends trop, tu...
Les haters viennent en vagues infinies, là. Il y en a autant puis autant. Puis dès que t'en abats un, il y en a un autre qui est prêt à reprendre le flambeau, là, puis
Ouais.
c'est comme une horde de zombies, là. Ça vaut
C'est
pas la
ça.
peine.
C'est ouvrir une boîte de Pandore. Je l'ai faite pour toi, puis pour les autres.
Merci.
Pas besoin de se lancer là-dedans. Mais le problème aussi, c'est ben le problème, l'argument problématique ou ce qui finit toujours par tourner en rond, c'est tu te fais répondre quelque chose rapidement du genre, viens pas me dire que si je joue à Mario Bros dans mon salon, je fais du sport. C'est comme, mais viens pas me... Ça comme pas de sens. En même temps, ils pensent que si le e-sport ou le jeu électronique, le sport électronique, le jeu vidéo peut être un sport, que tous les jeux vidéo sont un sport. Tu sais, je peux marcher pour aller au travail, mais je fais pas du sport, là. Je bouge. Je fais une activité,
C'est une
mais c'est un
activité.
moyen de transport. Mais tu peux faire de la marche aux Olympiques. C'est un show, il y a du monde qui regarde ça. Je sais pas qui regarde ça, là. La marche rapide, ça m'allume pas tant que ça. Mais c'est ça. Sinon, c'est que c'est complexe aussi, avec les gens, ils disent, ah, je comprends rien de ce qui se passe, puis c'est juste des affaires qui se passent sur un écran. Mais en même temps, là, c'est la job des amateurs, des commentateurs, puis tout ça,
Exact.
de
Tu sais,
vulgariser
je veux
ça.
dire, moi, c'est la même chose quand je regardais le hockey avant, là, où,
Ouais.
tu sais, je veux dire, tu regardes ça quand t'apprends le sport, tu comprends rien pantoute, là. Mais il y a tout le temps une beauté au mastery.
Ouais, c'est clair.
Tu sais, tu le vois quand quelqu'un fait bien ce qu'il fait, là, tu sais.
Ouais. Mais puis si t'as joué, mon exemple préféré, c'est le curling. Je trouvais ça ridicule à regarder. Je suis comme, ben ouais, ok, la roche se promène, je comprends pas trop. Mais les fois que j'ai joué au curling, à partir de ce moment-là, je suis capable de regarder un match puis faire comme, ouh, c'était beau ça.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faut une appréciation. Pour l'apprécier pleinement, il faut idéalement soit bien le comprendre, soit l'avoir essayé, là, c'est sûr.
Ouais, vrai ça. Fait qu'il y a quand même un gros travail à faire pour faire taire ces gens-là et où généralement ils ont une moyenne d'âge assez élevée fait qu'on peut attendre qu'ils meurent tous. Après ça va peut-être passer. Ça résume bien mon thumbs down. On va passer au tien, ça veut dire.
Oui.
Est-ce qu'il va être aussi cruel que le mien?
Ben, dépendamment de ta perspective de la chose, oui. C'est parce que, tu sais, moi j'aime beaucoup la Wii U, la console qui précédait la Switch. J'aimais beaucoup la Wii U quand t'étais current. Puis le hardware ne baisse pas de prix en ce moment, là, il se maintient. Il y a beaucoup de monde qui dit, ben gardez vos Wii U, ça va devenir la nouvelle Dreamcast.
Ouais.
Tu sais, ça va être super populaire plus tard dans le futur. Mais il y a un phénomène que je constate, en fait, c'est que plus ça va, plus l'héritage de la Wii U s'amenuise au point d'être quasiment absent, si on veut. J'ai l'impression que la Wii U va laisser une espèce de trou béant dans son... Je trouve que son vrai dauphin, si on veut, là, son vrai successeur, puis celui qui risque de laisser une marque, c'est vraiment la
Ouais.
Switch. Et je trouve ça vraiment dommage.
C'est-tu un peu à cause de le surportage de jeu? Est-ce qu'une partie de ta réflexion, c'est à cause que quelques-uns des ou la plupart des gros succès de Wii U vont être portés sur la Switch, donc ça enlève un peu de l'héritage de la Wii U et de l'intérêt à retourner vers cette machine-là, dans le fond?
Partiellement, oui. Mais c'est aussi de réaliser qu'il y a un petit peu comme aucun titre qui définit la console, si on veut. Tu sais, qu'on dit, tu sais, wow, ça représente bien l'esprit de la console, ou wow, ça peut pas vraiment être joué sur quoi que ce soit
Ouais.
d'autre, tu sais. Un petit peu ça, en fait, là. Fait que, de toute la ludothèque de la Wii U, il y a eu 753 titres. Puis, selon Joe Gagné, notre expert Wii U chez Jeux vidéo Deluxe,
Il
parce que lui, il y a un full set de
y a
Wii
un
U.
full set de Wii U.
Oui. D'ailleurs, si tu veux voir ça, il y a un épisode de la vitrine qui couvre spécialement
Ouais.
ça en particulier.
Shit.
Ouais. Je disais que selon son expertise, il y a justement 163 de ces jeux-là qui ont eu une sortie physique. On s'entend que la Wii U est un petit peu comme la Wii aussi, il y a eu un petit peu de cochonnerie dessus, là.
Ouais.
Pas nécessairement que de la cochonnerie, là, mais il y a eu de la boîte, là. Mais c'est ça, je te disais qu'on allait un petit peu éplucher les titres, donc on va y aller en ordre. Si jamais t'as quoi que ce soit à contribuer à un titre en particulier, vas-y, gêne-toi pas.
J'en ai déjà trop pris en note.
Excellent, on va en jaser un petit peu. Donc, Bayonetta 1 et 2 se sont retrouvés ensuite de se porter sur la Switch. Le 1 est un petit peu partout, all over the place, donc ce jeu-là, je peux pas vraiment le mettre comme dans l'héritage de la Wii U.
Il y a un côté quand même intéressant, mais vu qu'il a été transféré sur la Switch, ça perd un peu
C'est ça.
de son lustre. Mais le fait que le jeu a été sauvé parce que c'était mort puis ça avait été abandonné par Sega, c'est quand même cool.
Historiquement, c'est très intéressant. Puis justement, je sais que toi, t'es sensible particulièrement à ce genre d'informations-là, mais je pense que pour le collectionneur average, mettons, je pense que l'intérêt est assez limité, puisque la version Switch est quote-unquote supérieure. On continue. On a Darksiders 1 et 2. C'est pas des exclusifs, ni la version définitive du jeu qui sera annoncée sur Wii U. Ensuite de ça, on a Devil's Third, un jeu notable pour un caractère mature, puis sa relative rareté, mais c'est vraiment pas un bon jeu. C'est un exclusif, par exemple. On a Captain Toad Treasure Tracker,
Merveilleux petit jeu.
un jeu quand même passablement bon, mais il y a un port d'annoncer.
C'est vrai.
Mais bon, ensuite de ça, on a Donkey Kong Country Tropical Freeze, un autre excellent jeu qui est aussi porté sur la Switch.
Ah, c'est une petite merveille.
Ouais. Ensuite de ça, Genesis Sisters Twisted Dream Director's Cut, un bon jeu 7.7 sur 10, mais c'est pas un exclusif. Hyrule Warriors, un autre jeu qui a été porté sur 3DS et sur Switch. Injustice, Gods Among Us, un bon jeu de combat dans l'univers de DC, mais il n'y a pas les DLC qui sont retrouvés sur toutes les autres consoles, donc c'est pas la version définitive du jeu. C'est ça, on a The Legend of Zelda Twilight Princess HD et The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Deux excellents ports mis à jour, mais de mon point de vue, ça fait plus partie de l'héritage de la GameCube et de la Wii. Puis, je pense qu'il pourrait avoir un port slash compilation sur la Switch. Je sais pas ce que t'en penses.
Je serais pas tant étonné en effet. Sinon, ils vont peut-être vouloir faire un Skyward Sword avant pour le remasterer.
Peut-être, ça serait cool.
Wind Waker, il était visuellement super cool. C'est le fun de l'avoir sur Wii U, mais en même temps, il y a pas de monde qui vont dire ah, oh, la Wii U était vraiment hot pour le port de Wind Waker. Ils vont aller chercher une GameCube.
C'est ça.
Parce que ça reste un jeu qui a super bien vieilli, même sur GameCube.
Ah, tout à fait. Fait que, continuons. Mario Kart 8, qui s'est ramassé Mario Kart 8 Deluxe, porté sur la Switch. Pokken Tournament a été porté sur la Switch. Rayman Legends, très bon jeu, porté sur la Switch. Resident Evil Revelations. Mais en fait, celui-là qui est sorti sur Wii U, c'est un port de la version 3DS. Ça a été porté all over the place, incluant la Nintendo Switch. Rodea the Sky Soldier. Le jeu est vraiment pas excellent. Puis, si vous avez le first print, mais je pense qu'il n'y a pas eu le deuxième print anyway, là, mais si vous avez le jeu, vous avez aussi la version Wii, qui, elle, est considérée comme la version définitive du jeu. Donc, on peut comme rayer ça de l'héritage de la Wii U, si on veut.
Ouais, l'héritage de la Wii U, c'est que t'as pu avoir un jeu rare qui te donnait accès à un jeu pour la console d'avant, tu sais.
C'est ça.
Wow.
Ensuite de ça, tu vas aimer ça. Shovel Knight.
Ouais.
Le jeu est vraiment à sa place sur la Wii U, mais le jeu est disponible absolument partout,
Partout.
incluant la Nintendo Switch.
Ouais.
Next. Zombiu.
Ah, je l'avais en note, celle-là.
Oui, je me suis dit aussi. Le jeu a été porté, puis je débattrais que lui, c'est un jeu qui est la version ultime et sur la Wii U.
Ouais.
Je sais pas si t'es d'accord avec ça.
Absolument, version définitive, parce que c'était la façon de le jouer. Et en même temps, quand je pense Wii U, c'est un des jeux qui me pop parce que, bon, je l'ai acheté en même temps que la Wii U, là, fait que je l'ai joué au début, mais ça reste qu'il faisait des trucs qu'on voyait pas ou qu'on n'a jamais vraiment vu dans d'autres jeux, que ça prenait cette console-là pour avoir comme toute l'idée créative derrière. Fait que je pense que ça pourrait être un qui fit quand même dans le bill.
Ouais, mais je trouve que c'est quand même un UFO même sur la console en tant que telle. Mais c'est un titre intéressant, en tout cas notable, pour ceux qui veulent justement collectionner la Wii U. Je pense que c'est un des titres qui vaut vraiment la peine, un des essentiels si on veut. Ensuite de ça, un jeu du lancement de la console, Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition, qui a été
Ah
complètement oublié par l'univers entier.
ouais. C'est un peu drôle avec les choix de costumes là, spécial
Moi, c'est ça, t'avais un mode avec des champignons de Super Mario pis tout ça.
puis. Ouais.
Puis c'est pas un essentiel. C'est un bon jeu pour de vrai, c'est super le fun, mais un grand oublié de la console, et c'est peut-être la version ultimate du jeu, mais de toute façon, Tekken, c'est quand même hyper niche, là. C'est plus niche que tous les autres jeux de combat qui sont encore current. Fait que, en tout cas. Continuons. The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Ouais, c'est là-dessus que je l'ai faite, moi.
Ben oui, c'est ça. Justement, je me suis dit que t'aurais peut-être un input intéressant là-dessus, mais de mon point de vue, le port définitif, c'est sur la Nintendo Switch.
Ah, oh, c'est sûr.
Tu sais, je veux dire, ça couvre la mort de la Wii U et la naissance de la Switch.
Ça a comme signé l'arrêt de mort de la Wii U, quasiment, où ça a incité le transfert vers l'autre, ce qui est quand même noble comme mission pour un jeu. Mais moi, je l'ai pris sur la Wii U parce que je voyais pas encore quand est-ce que j'allais me prendre une Switch. Là, je regrette un peu, en fait.
Ça n'a pas tardé quand même, hein. D'ailleurs, j'y joue encore à ce jeu-là, by the way. J'ai fini un deuxième donjon, une deuxième Legendary Beast.
Ben, j'aurais d'autres choses à faire dessus. J'avais même pris l'extension, mais là, j'ai pas joué à la dernière truc qui est sorti parce que c'est un peu ridicule, mais en fait, mon pad, le joystick de gauche pour me promener, de temps en temps, il bloque en tournant.
Ça, c'est tabarnane, pour de vrai. La réparation du pad, là.
Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Mais je pourrais, à la limite, juste le jouer sur ma télé avec ma Pro Controller, là. Je pourrais, là, le faire, mais en même temps, j'ai une Switch, puis je joue à d'autres choses, puis je suis comme pas retourné encore. Va falloir que... Je sais pas trop, là. Je suis comme dans une drôle de position, même si c'est un jeu merveilleux.
Alright. Fait qu'on va continuer, parce qu'il me reste quand même un petit peu à éplucher. The Wonderful 101.
Ah, je l'avais en note, lui, tout.
C'est un jeu qui demeure à ce jour encore exclusif à la console, mais le producteur du jeu a mentionné qu'il aimerait vraiment beaucoup faire un port pour la Switch.
Ouais, il y a des rumeurs ou des bribes à propos de ça. Sinon, quitte à sauter direct pour faire une version, pas juste remaster ou port, mais une version améliorée en retouchant une couple de trucs, peut-être. C'était cool comme jeu, cool comme concept.
Des créateurs de Bayonetta.
Ouais, d'ailleurs. Fait que c'est... À date, c'en est un qui pourrait faire comme « Hey, Wii U, tu dessines sur ton pad, tu joues à télé. Wonderful 101. »
Ouais, je pense. Là, ici, on va rentrer dans les titres plus particuliers puis qui sont toujours exclusifs à la Wii U. La liste est assez mince, mais j'aimerais ton feedback si, à ton avis, il y a un de ces titres-là qui est assez fort pour dire qu'il définit vraiment la console, puis disons un jeu qui, en 2018, mériterait l'achat d'une Nintendo Switch pour y jouer, ok? Considérant la valeur de la console qui diminue pas.
Ouais.
Donc, on commence. Super Mario 3D World.
Ah, c'est un très bon jeu.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va pas être porté, ce jeu-là?
Je sais pas. À Nintendo, bon, à part les vieux Mario, mais ils ont jamais trop fait de port. C'était un excellent Mario. Moi, j'avais trouvé super le fun. J'ai comme souri tout le long en jouant.
Alright. Fait que lui, il ferait la liste, mettons.
Ouais, mais je sais pas si, tu sais, il mériterait d'acheter une Switch juste pour ce jeu-là. Parce que là, t'as Mario Odyssey, là. Fait que c'est comme de popper un Mario un peu moins bon. Mais il vaut la peine de se trouver une Wii U usagée pour le faire amplement.
Ok. Prochain titre. Super Mario Maker, qui a eu un port sur 3DS, petit astérisque.
Ouais. Ça, c'était mon autre jeu en note que je trouve qui définit à 100% la Wii U.
Je pense que oui, au niveau des mécaniques puis de l'utilité. Malheureusement, tu sais, on parle de titres qu'on pourrait acheter en 2018. Miiverse est dead.
Ouais.
Ça diminue l'intérêt de certains jeux, dont Zombie U puis Super Mario Maker. Mais c'est quand même un des titres les plus intéressants puis les plus, comment je peux dire, qui utilisent le mieux les fonctionnalités de du gamepad, là.
Je pense que c'est, tu sais, la communauté est quand même encore actif, là. Il y a beaucoup de streamers qui font encore de tout ça.
Oui.
Parce que les possibilités sont énormes.
J'ai encore le goût d'y jouer, en fait. Ouais. C'est une affaire à mentionner, là. Fait que...
Ça, c'est un jeu que je voudrais pas voir un port pour la Switch, mais que je voudrais un Super Mario Maker 2 sur la Switch. Tu sais, comme, il y a pas de raison, à part pour faire de l'argent, parce que ça coûterait presque rien de faire. Il y a pas de raison de juste l'envoyer là. Tu fais une Switch, tu fais un 2, tu rajoutes comme un ou deux game design, un ou deux graphic design, mettons, là.
Ouais.
Tu y vas all-in, puis tu mets un Mario Bros. 2 si tu veux, mais là, ça, c'est comme complètement autre chose, mais ça pourrait être très cool.
C'est ça, c'est les mécaniques de jeu sont complètement différentes, là. C'est comme si tu me dirais, mets Mario 2, puis mets, mettons, Mario Paint, là.
Ouais. Mais, il y a de quoi à faire. Tu y vas Super Mario Maker 2 ou all-in, Super Mario Maker 64, mais là, c'est peut-être autre chose.
On continue, parce que mon thumbs down s'éternise un petit peu. Super Smash Brothers pour Wii U. On sait que Smash Brothers va venir sur Switch, puis on sait qu'il va y avoir des nouveaux personnages, on sait pas si c'est genre continuation de la série, c'est pas une espèce de Smash Brothers Deluxe.
C'est flou, on ne sait pas encore.
J'ai l'impression par contre que ça va rendre la version Switch, la version Wii U plutôt, complètement obsolète.
Probablement.
Donc, c'est quand même un des killer apps de la console, mais ça définit pas la particularité de la console d'aucune façon.
Non,
ça pourrait être sur n'importe quelle console, ce jeu-là. Prochain titre. Kirby and the Rainbow Curse. Probablement un classique sous-apprécié à mon point de vue. Difficilement possible de le porter sur la Switch étant donné l'utilisation du stylet. Encore une fois, on pourrait utiliser les motions, là, whatever. Pour le moment, ça reste, disons, dans l'héritage de la console, mais c'est très très niche comme genre de gameplay, malgré le fait qu'elle soit un Kirby, là.
Ouais, ben c'était comme Canvas Curse, en fait. Là. Celui-là, la version DS.
Ouais, c'est ça, c'est comme la suite de...
Ouais.
Ouais.
C'est des pas pires jeux, mais ça reste très niche, je pense que c'est... Il y a visuellement qui est intéressant, il est comme tout en pâte à modeler. Là.
Mm-hmm.
Comme Canvas Curse n'a pas défini la DS, je pense pas que ça va définir la Wii U.
Non, puis ça mérite pas l'achat d'une console pour ça, justement.
Ouais, je pense pas.
On continue. New Super Mario Bros. U et New Super Luigi U. C'est essentiellement New Super Mario Bros. Version HD.
Mais je pense, peut-être que Mario Odyssey n'était pas encore sorti, mais il y a une liste, peut-être IGN, qui ont mis New Super Mario Bros. U comme étant le meilleur Mario Bros.
C'est intéressant ça. Débattable. Tu as-tu joué pas mal à ce jeu-là, toi?
Ah oui, j'avais comme tout fait. C'est un bon jeu. Je sais pas à quel point je le mettrais si haut que ça, mais il y a aussi les lunettes de nostalgie là, pour les Mario World et compagnie.
Ben oui.
Mais il était accompli, puis il était très cool. Mais en même temps, il recycle des idées pareilles là, de toutes les autres New Soup.
C'est ça. Mettons que la sauce commençait à devenir fade un petit peu, rendu là. Là.
Ouais, mettons.
Alright, bon, on continue. Nintendo Land.
Oh.
Quand le jeu est sorti avec la console justement, ça je pensais que ça allait définir la console en tant que telle.
Le Wii Sport de la Wii U.
Oui, puis il est super bon ce jeu-là, super le fun. Excellent party game, underrated, je ne comprends pas que le monde le mentionne pas plus souvent. À la limite, je pourrais dire que c'est un jeu qui mérite l'achat de la console. Mais, justement, t'as perdu les fonctionnalités Miiverse. C'est rendu...
T'avais peut-être besoin de trop de manettes au départ si tu voulais jouer comme à 5.
Oui. Oui, c'est clair.
C'est ça.
Mais, tu sais, tu pouvais réutiliser les manettes de Wii, par contre, là.
Ouais.
Tout le monde avait des manettes de Wii. Ouais.
Tout le monde en a plein de ça, des manettes de Wii qui traînent, là. C'est la même chose que des guitares de Guitar Hero.
J'en ai 7. Pour de vrai.
Voilà.
Ouais, fait que, mais bon, c'est un bon jeu, un exclusif qui sera sûrement jamais porté.
Non, c'est sûr.
On peut au moins donner ça, là. Parce que ça utilisait vraiment le gamepad dans tout.
Ouais. Ben, les jeux multijoueurs asymétriques comme ça, là, c'est un style que, malheureusement, pas pogné ou qu'on voit pas souvent, là. Il y en a ici et là, mais c'est vraiment cool d'avoir une personne contre plusieurs ou une perspective complètement différente, puis des, justement, de l'asymétrie, là. C'est...
Ouais. Puis il advertisait ça à fond, là, en plus, hein.
Ouais.
Il voulait du gameplay asymétrique, c'était ça l'idée. C'est complètement disparu maintenant parce que, ben d'abord, la nouvelle console permet pas vraiment ça.
Mm-hmm.
Puis Nintendo Land, c'était le concept de tout ça, tu sais.
Ouais.
Fait qu'en tout cas, pas un très bon jeu single player, par contre.
Absolument.
Si on continue, Pikmin 3.
Je l'ai, puis j'ai jamais joué. J'ai jamais vraiment accroché sur Pikmin, fait que je suis un très mauvais candidat pour commenter là-dessus, par exemple.
C'est bon. Mais bon, c'est un bon titre qui pourrait être porté au moins partiellement. Peut-être pas, peut-être. C'est un bon jeu, mais t'sais, pas pour dire « Ok, ben j'achète la console pour ça ». On passe au prochain titre. Splatoon. Est-ce que tu as joué à ce jeu-là?
Ben, même pas, mais c'est criant de Wii U.
Oui, mais Splatoon 2 est tellement meilleur en tout point. Je suis retourné et joué au premier Splatoon.
Ouais.
C'est beaucoup une expérience multiplayer, le single player est hyper streamlined même par rapport aux deux.
Mm-hmm.
Puis ben premièrement, à part m'a fait complètement torché, hein, parce que j'étais plus à jour. Tu sais, je veux dire, le story mode, c'est la seule chose qui reste de ce jeu-là sur Wii U, puis c'était déjà hyper mince, là.
Ouais.
Donc, je pense qu'on peut facilement l'enlever de tout, là. On peut
c'est des beaux souvenirs, mettons. Puis, il y a eu des trucs cool, les belles compétitions, mettons. Mais c'est vrai que... En plus, puis là, ben, on a le 2. C'est un beau début de franchise, mettons.
Voilà. Prochain jeu, Xenoblade Chronicles X, qui a eu une rumeur de potentiel port sur Switch. RPG un petit peu sous-apprécié, très différent du premier.
Ben, les critiques étaient super bonnes.
Oui.
Fait que je sais pas à quel point il s'est vendu, parce que de toute façon, la Wii U s'est pas tant vendu, fait que ça.
Il en a vendu au moins un. Je l'ai, moi.
Ah, ben moi tout, je l'ai. Puis j'ai mis beaucoup trop d'heures pour mon appréciation pour ce jeu-là.
Ouais. Ben, c'est parce que Monolith Soft, OK, là, c'est le chef cuisinier okay, qui s'en vient de voir à ta table quand t'arrives au restaurant. Puis toi, t'as juste le goût d'une toast au beurre de peanut, OK? Puis tu lui dis ça, puis il dit « OK, tu veux une toast au beurre de peanut? » Il revient avec une tranche de pain avec 3 pouces de beurre de peanut.
Ouais.
Okay? Je fais ces Monolith Soft puis les jeux de Xenoblade Chronicles, ok?
En fait, pour continuer ta référence, ton analogie avec chef cuisinier, ce jeu-là, j'avais beaucoup aimé le premier, disons, sur Wii. J'ai trouvé ça le fun, surtout la musique, puis c'est cool. Là, je joue à celui-là. En fait, c'est comme si le cuisinier, il est venu me porter. J'avais envie, mettons, d'une sauce au beurre de peanut. Il m'amène une sauce au beurre de peanut. Mais ici et là, il met des clous de girofle dedans. Genre des petits trucs qui vont me gosser royalement.
C'est bon ça.
C'était un peu ça. Fait que il y a toujours des petits trucs qui me faisaient moins apprécier ma toast au beurre de peanut, mais à chaque fois je me disais, j'aime ça les toasts au beurre de peanut. Fait que je continue à la manger. Puis je me suis rendu jusqu'au bout de ma toast au beurre de peanut, puis à la fin je me suis dit, bah, c'est ça. Ouais.
La seule chose qui te reste, c'est tes rotes au clou de girofle à
Ouais, c'est ça.
la fin. Alright, on achève la liste, il reste deux titres. Tokyo Mirage Session Sharp FE, le crossover de Shin Megami Tensei et de Fire Emblem
Ouais.
dans un univers pop idol japonais-ish. C'est un RPG niche qui était vraiment plus typique de ce qu'on trouve sur PS4. C'est vraiment un UFO sur la Wii U, mais c'est pas comme genre même aussi bon que la plupart, mettons, des titres comme Persona ou ce genre d'affaires-là. C'est comme le...
Ben moi, ce jeu-là, c'est un peu comme le groupe de musique Trois gars sur le sofa. J'oublie qu'il existe pendant un bout, puis un moment donné, il pop, puis je suis comme, ah ouais, ça existe.
J'ai pas le goût de l'écouter, mais ça existe.
Ouais,
Bon. Fait que, tu sais, intéressant, je pense qu'il pourrait le porter aussi, mais tu sais, l'intérêt est mineur, là. Le dernier titre, c'est Yoshi's Woolly World, qui a eu aussi un port sur 3DS. As-tu quelque chose à dire à ce jeu-là?
ça me donne envie d'acheter celui qui va sortir sur Switch, là.
Ouais, c'est la continuation de l'idée, là.
Ouais, qui a l'air un peu plus abouti.
Rien vraiment d'autre à ajouter, là.
Ouais.
Ils ont fait une... Tu sais, je veux dire, les graphiques sont moins beaux sur 3DS, mais ils ont rajouté un mode avec Poochie, là. Fait que, tu
Ah oui,
sais,
c'est
c'est comme
vrai.
la version Ultimate, c'est vraiment le 3DS.
Par contre, ce jeu-là nous a apporté un foutu bel amiibo.
Ah, deux, en fait. L'amiibo de
Ouais.
Yoshi et l'amiibo de Poochie. Les deux sont
Ah.
écœurants.
Puis l'amiibo gros gros Yoshi, parce qu'il y en a un peu plus gros. Fait que tu sais, il y a ça.
Ouais.
C'est des beaux amiibo. La Wii U nous a apporté les amiibo, il y a ça aussi.
Oui.
Même s'ils sont rendus portés sur les autres consoles.
Exact. Mais tu sais, regarde, maintenant qu'on a fait le tour, si on a passé la librairie au complet, je m'excuse sincèrement d'avoir fait ça. Mais on a passé la librairie au complet. Est-ce que, de ton point de vue, il y a un jeu qui, en 2018 ou en 2038, vaudrait la peine de dire, OK, oui, j'achète une Wii U?
Dépendamment ce qu'ils font par la suite, je dirais Mario Maker.
Ça faisait dépendamment s'il port ou pas.
Parce que mettons qu'il n'y en a plus jamais de Mario Maker, là, c'est sûr que ça vaut la peine.
Mario Maker, encore une fois, il n'y a pas de Miiverse.
Ouais.
Puis, il faut te dire aussi que, mettons, la plupart des trucs qui connectent à Internet en 2038, je doute que ça va fonctionner encore.
Mais là, tu peux comme avec tes amis dans ton salon là, faire des jeux.
Oui, mais ça vient d'augmenter le coût d'entrée, mettons, là.
Ouais.
C'est comme jouer à Four Sword Adventure en 2020, où est-ce qu'il faut 4 GBA, puis un GameCube,
Ouais.
puis c'est...
Mais sinon, c'est vrai que ouf, y a pas tant grand-chose. Toi, t'as ton opinion en fait là-dessus.
Ben justement, c'était mon thumbs down, l'absence
Ouais.
d'héritage de la Wii U. De mon point de vue, il y a plus de trucs intéressants pour de vrai sur le Virtual Boy ou sur le Dreamcast, justement, dans les deux cas. Plus ça va, plus je regarde ma collection de Wii U, puis je fais comme genre, tu sais, je les ai, mais c'est plus comme, je suis pas content de les avoir, je suis content de les avoir eus. Tu comprends, là?
Ouais.
Je me souviens de que quand je les ai eus, j'étais content, tu sais.
Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de collection en plus? Parce que j'ai beau être un fervent défenseur de l'expérience authentique, mais si à peu près tout ce qu'il y a là-dessus se retrouve sur Switch ou est jouable même sur une autre console de la même génération, est-ce qu'il y a vraiment une raison de l'avoir à part pour dire je possède, de la mettre juste à côté de ta Virtual Boy puis dire que je possède un autre flop, là?
Ouais, c'est ça. Fait que regarde, c'est en train de me déprimer, ça.
Ouais,
On va y aller avec des thumbs up.
Oui.
Malheureusement, si vous êtes tanné de m'entendre parler, c'est encore moi qui commence avec le thumbs up. Mon thumbs up va à l'année 1993.
Oh.
Non seulement c'est l'année de naissance de ma copine,
C'est cute.
mais j'aimerais surtout illustrer à quel point cette année-là a été vraiment super fantastique en termes de qualité niveau gaming. en 93. Les arcades étaient encore d'actualité, puis c'est là qu'on a vu la sortie de plusieurs titres qui ont marqué l'histoire du gaming. On parle aussi de titres comme Daytona USA, Mortal Kombat 2, qui était tellement meilleur que Mortal Kombat 1,
ouais.
Ridge Racer, Virtua Fighter, qui était écœurant à l'arcade, et NBA Jam. Fait que ça, c'est quand même des gros piliers de l'arcade. Puis on s'entend que l'arcade a continué d'être forte jusqu'à peut-être 96, 97. Mais ça, c'est pour 93. Bon, ensuite de
Je te coupe deux secondes, mais Daytona USA, à l'arcade, ça a bien vieilli. Là. Si je pense à une place qui a des bandes d'arcade, puis qu'il y a un Daytona, je vais m'asseoir dedans, puis faire une course, puis perdre royalement, mais il est le fun.
Mais tu vois, dans tous ces titres-là, je pense que tous les jeux ont bien vieilli, sauf Virtua Fighter.
Ouais.
Tu peux pas battre des polygones de niveau quasiment PS1, là. C'était laid. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs des franchises que je viens de mentionner qui sont plus vraiment d'actualité. On est 25 ans plus tard, là, exactement, après 93. Mais à mon avis, ça reste que c'est des titres qui ont une grande influence puis qui ont partiellement façonné le futur du gaming en tant que tel. Si on tourne derrière la page des jeux d'arcade, parce que moi, je jouais plus chez nous, en réalité, là, je jouais sur PC, je jouais sur Super Nintendo. Puis, à Saint-Alain, en 93, la seule arcade qu'il y avait, c'était au Fan Club Vidéo, qui était au village, puis c'était loin de me rendre là-bas. Donc, je jouais chez nous. Puis, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de titres vraiment intéressants pour 1993. On parle de titres comme Star Fox sur Super Nintendo, début d'une franchise.
Ouais.
Ensuite de ça, Kirby's Adventure, qui a été le dernier jeu de Nintendo que Nintendo a publié sur la NES. Ensuite de ça, on a Day of the Tentacle, la suite de Maniac Mansion qui est parue sur PC, point and click aventure humoristique.
Oh man.
On a The Legend of Zelda Link's Awakening qui est sorti sur Game Boy Classic cette année-là. Puis c'est un de mes jeux Zelda préférés ever et un de mes jeux de Game Boy préférés ever, fait que ça les met comme genre top du panthéon.
Il y a quelque chose, il y a un beau petit jeu, c'est le premier jeu que j'ai eu sur ma Game Boy Color, moi, il me semble.
Ah ben oui, ils ont sorti justement une version Game Boy Couleur avec deux donjons supplémentaires. Là. Je cherche celle-là d'ailleurs. Sinon, si on continue la liste, il y avait Super Mario All-Star, qui était la première compilation de jeux de Mario que Nintendo a faite. C'est paru sur Super Nintendo. Ensuite de ça, on a un trend qui est intéressant ici. En 1993, on commençait à avoir des jeux sur CD, DVD-ROM avec des full motion vidéo. Donc, en 93, on a eu l'apparition du jeu Myst, qui est littéralement légendaire comme jeu. J'avais des familles complètes qui jouaient à ça.
Vraiment cool. Mais j'ai joué il y a pas si longtemps, puis... Ouf!
C'est mauvais.
Hey, c'est mauvais. Une journée, c'est quand j'étais à l'université au labo de jeux vidéo à Montréal, à l'université de Montréal. On se prend Myst et aussi Zork, qui est comme text-only. On a eu plus de fun avec Zork qu'avec Myst.
Ben c'est ça, Zork, ça roule sur la meilleure carte graphique du monde.
Ouais.
Ton esprit. Fait que l'imagination, c'est très puissant.
Ouais. Mais Myst, c'était quand même... On peut pas nier tout ce que ça apportait.
L'impact était écœurant. C'était un multi-million seller pour un jeu PC. Fait qu'en tout cas, Myst... Ensuite de ça, on a Gabriel Knight, Sins of the Father, un autre fameux point and click.
Ouais.
Le premier de la série des Gabriel Knight, paru sur PC. On a deux trucs intéressants ici. En fait, trois trucs intéressants, mais le premier, c'est Mega Man 6, le dernier des Mega Man classiques à apparaître sur NES et sorti en 93.
C'est temps qu'arrête ça.
La même année, ils ont sorti Mega Man X sur Super Nintendo, qui est le premier des Mega Man modernes à être sorti sur Super NES.
Je l'ai passé hier soir avec un ami.
Ah, c'est tellement un bon jeu, là.
Mais on peut tout le temps y revenir.
Puis, dernier titre... digne de mention, de mon point de vue, Doom est sorti sur PC en 93.
Ça, c'est ultra important.
Oui, c'est ça qui a donné naissance à l'ESRB, ce qui vient aussi joindre avec Mortal Kombat en arcade tantôt. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Moi, je suis vraiment épaté par la qualité. C'est pas tellement une quantité de produits écœurants qu'il y avait en 93, mais vraiment une qualité de produits. Puis combien de ces titres qui demeurent vraiment encore d'actualité, c'est débile. Là.
C'est ça, surtout des jeux qui ont comme façonner une partie de l'industrie à eux autres seuls.
Oui, 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 c'est ça. Puis il y en a qui ont des retours en popularité, les point and click. Star Fox, bon, c'est pas très très populaire, mais c'est toujours une affaire. Kirby, Legend of Zelda, Mega Man, Doom, qui a eu un revival assez massif, même si le jeu est jamais vraiment parti.
Mega Man qui a une suite aussi qui s'en vient.
Oui, c'est ça. Mega Man classique qui a une suite. Les collections qui sortent bientôt. Je trouve ça super intéressant, donc... Mon thumbs up va simplement à 1993. C'est une année 40. Méchante bonne cuvée. Verse-moi un autre verre. Puis je serais curieux, Adam, de savoir c'est quoi ton thumbs up?
Mon thumbs up, on revient à mon thumbs down pour comme boucler la boucle parce qu'on est dans la même thématique. Non, mais dans un plus positif, parce que j'ai fini en disant qu'il y a, y a des gens qui vont être responsables de faire changer d'idée les têtes brûlées.
Oui, excuse, parce que j'avais complètement oublié ton thumbs down. Tu parlais du monde qui hate le fait que les jeux vidéo rentrent dans la culture populaire, essentiellement, là.
C'est ça qui se plaignent contre le fait de parler de sport électronique, puis blablabla, puis de streamers qui font de l'argent en jouant à des jeux et tout et tout. Ben, tout ça, c'est quand même en réponse au fait que les jeux vidéo, ils sont partout. Et là, on en parle dans les nouvelles aussi. Aux derniers Jeux Olympiques, que je n'ai pas regardé, puis que c'est pas très grave, là, je m'en fous un peu des Jeux Olympiques. Petit message politique de 2 secondes. Mais c'était en démonstration, il me semble, là, avant l'ouverture officielle, il y a eu une compétition de StarCraft 2. C'est une Canadienne qui a gagné. Fait qu'en plus, on performe en sport électronique, tu sais. Fait que le fait que ça se rende aux Olympiques, je sais pas à quel point on devrait avoir du sport électronique aux Jeux Olympiques. À mon avis, je considère quand même ça comme du sport, que ça peut être fait de, ça peut être une pratique sportive. Mais tant qu'à les amener aux Jeux Olympiques traditionnels, avec tous les problèmes que ce comité-là apporte, pourquoi pas faire des e-Olympics ou une compétition de Jeux Olympiques électroniques, mais sans appeler ça des Jeux Olympiques, genre, partez-vous quelque chose à part, probablement que l'industrie du jeu ou juste toute la culture du jeu vidéo peut faire quelque chose de mieux que les Jeux Olympiques. Ça, c'est peut-être un autre sujet éventuellement, mais tu sais, c'est là, c'est dans la culture, puis ça ressort. Et ça fait un petit bout sur RDS, là, on voit du e-sport, du League of Legends ou Dota, là, je sais pas lequel des deux, de toute façon, ça ressemble parce que je connais pas ça. Tu sais, il y a ça qui joue, on parle avec des athlètes de e-sport, il y a la présence de Miss Harvey qui passe un peu partout.
On leur donne le spotlight, en fait, là.
Au jeu, puis au monde qui joue, puis aussi au studio. Déjà, le Québec, ça fait longtemps qu'on est fier ou qu'on essaye de montrer qu'on est fier de nos studios de jeux vidéo. Fait que tant qu'à ça, montrons-le, le jeu vidéo, puis montrons ceux qui font, ceux qui le jouent. Là, sur RDS, il y a Papa Cassette du CCJVQ
Oui, shout out à Papa Cassette.
Qui fait des vidéos ou qui écrit. Il y a des critiques qui se font sur le site d'RDS. En plus de Papa Cassette, je sais pas si y a une façon particulière de prononcer, je m'excuse Mario, mais Mario J. Ramos, qui écrit aussi pour RDS. Donc là, il y a des articles sur le jeu vidéo qui se retrouvent sur RDS. Je suis sur le site en ce moment, là, dans la catégorie eSports. Il y a un Stéphane Bellavance, ambassadeur de Nintendo Labo, un vidéo puis une entrevue avec. Fait qu'il y a un intérêt pour les médias traditionnels, disons, vers le jeu vidéo. Je trouve ça très cool. Puis c'est, même si au début, il y a peut-être de la misère, il peut avoir de la difficulté à trouver un auditoire, mais c'est en continuant à afficher du jeu vidéo que ça va devenir comme normal, mettons.
Faut laisser le temps
Ouais.
au monde de trouver leur voie, dans le fond, de trouver où est-ce que c'est accepté,
Ouais.
acceptable.
Faut que les réseaux s'adaptent, puis il faut aussi que l'auditoire comme s'adapte, puis comprenne un peu plus ou se dise, ah, oh, je peux regarder ça à la télé aussi que j'ai. Parce qu'en même temps, c'est quand même d'aller sortir du monde, peut-être qui sont habitués de juste regarder leurs vidéos de gameplay sur Twitch, là. Mais c'est peut-être faisable d'avoir ça, d'encourager la diffusion de jeux vidéo locales, ça peut être cool aussi.
Ben d'accord, donc si tu devais résumer ton thumbs up.
Mon thumbs up, c'est l'ouverture des médias traditionnels québécois envers le jeu vidéo.
Traditionnaux. T'es sûr de ça? Traditionnaux.
Ben, RDS, c'est un média traditionnel, je sais pas trop. Tu sais, c'est quand même la télévision par câble
Vous avez
aussi.
l'usage de traditionnel au pluriel, est-ce que c'est traditionnaux?
Ah, ben, tu me fais douter,
Moi
là.
aussi. Mais bon, tu l'as dit au
Les
moins
médias
trois fois, fait que
traditionnels.
j'espère que ça va être
Ouais,
inclus dans
en tout
la
cas,
charte de
ça.
langue française.
Parce que, tu sais, même sur Radio-Canada, là, récemment, un article sur les collectionneurs de jeux. Puis là, ici, je suis allé jaser collection de jeux vidéo avec Radio-Canada Première en Abitibi. Fait que ces médias-là, traditionnels, traditionnels, médias vieux, on va dire ça, sont ouverts aux jeux vidéo puis à toute cette culture-là. Puis à un moment donné, c'est le pas qu'il fallait faire. Puis je trouve ça cool. Ça me donne espoir en la vie.
On salue l'ouverture
Voilà.
à la culture.
C'est super positif en parallèle avec mon négativisme et fatalisme de l'autre.
C'est sur ça qu'on va conclure l'épisode 3 de GVDX Micro. Adam, en tant que superbe invité, c'est toi qui as choisi la trame de fin pour l'épisode. Est-ce que tu
Oui.
pourrais nous la présenter, please?
J'ai pas choisi ça pour rien parce qu'en fait, ça allait avec ma conclusion de mon thumbs up. C'est une toune de Chrono Trigger qui est Il est toujours en constante bataille pour être mon jeu préféré entre ça puis Final Fantasy. Final Fantasy VI, en tout cas Chrono Trigger. Vu que on célèbre l'ouverture, ça c'est la toune World Revolution.
Excellent. Cool. Merci beaucoup, Adam. À la prochaine.
C'est toujours un plaisir. Merci David. Ciao.